Chapitre 7. 5 heures arrivent, puis passent, sans nouvelles de Brian Shay. 6 heures, 7 heures, toujours rien. Elle se rend jusqu'au Fields, à pied. Une pancarte sur la porte annonce « Fermée pour affaires privées ». Putain, qu'est-ce que ça veut dire ? A-t-elle envie de crier ? Ce bar n'est jamais autre chose qu'une affaire privée. Mary Pat frappe à la porte. Une douzaine de fois au moins. Suffisamment pour réveiller les douleurs dans sa main droite, toujours là depuis qu'elle a collé une bonne dérouillée au minable qui sert de petite amie à sa fille. Personne ne vient ouvrir. Elle essaie ensuite la maison de Brian Shay, là-bas, sur Telegraph Hill. C'est une des maisons mitoyennes anciennes en briques rouges qui font face au parc. Sa femme, Donna, vient ouvrir. Donna et Mary Pat, ainsi que Brian, étaient dans la même classe à l'école primaire. Et dans la même classe aussi à Saucy High. Mary Pat et Donna étaient comme les deux doigts de la main, mais ça, c'était avant que leur vie ne prenne des directions différentes, et Mary Pat s'est retrouvée à élever deux gosses dans une cité de logements sociaux, tandis que Donna Shay, née Doherty, épousait un marine, voyageait partout dans le monde, avant de revenir après que ledit marine eût été tué par une grenade lancée par ses propres gars dans un endroit appelé Bin Thuy. Revenue sans enfant, Donna est allée vivre chez sa mère sénile et elle envisageait un lent déclin jusqu'à sa propre sénilité quand sa rencontre avec Brian Shay a complètement changé le cours de sa vie. Sa mère est morte, Brian a été promu commandant en second dans la bande de Butler, ils ont emménagé dans cette maison mitoyenne de Telegraph Hill et dans la foulée, Brian lui a payé une Mercury Capri bicolore. Pas de gosse, pas d'animal familier, pas de difficultés matérielles. Donna a touché le tiercé gagnant dans l'ordre. Tout ce dont elle a à s'inquiéter désormais, ce sont les rendez-vous annulés chez la manucure et toute grosseur suspecte sur sa poitrine. Donna regarde Mary Pat depuis l'autre côté du seuil et dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Comme si Mary Pat avait frappé à sa porte pour lui vendre une assurance vie. « Salut !» dit Mary Pat. Comment ça va ?
Je vais bien.
Donna paraît ennuyée. Elle jette un coup d'œil dans la rue par-dessus l'épaule de Mary Pat. Qu'est-ce qu'il y a ?
Je cherche Brian. Il n'est pas là.
Tu sais où il est ?
Pourquoi tu veux savoir où est mon mari ?
Il se renseignait sur quelque chose pour moi.
C'est quoi ?
Où ma fille pourrait se trouver ? Elle a disparu depuis avant-hier soir.
Qu'est-ce que ça a à voir avec lui ? Il m'a proposé de se renseigner. Alors attends sa réponse. Il a dit qu'il me contacterait vers 5 heures aujourd'hui. Eh ben, il n'est pas là.
Ok.
Ok.
Bon.
Bon. Je veux juste... Quoi ? J'essaie juste de retrouver ma fille, Donna. Alors retrouve-la.
J'essaie, répond-elle. Alors que ce qu'elle a envie de dire, hurler, c'est « Mais pourquoi tu te comportes comme une connasse ?» Elle ne trouve rien d'autre à ajouter. Elle fait demi-tour et descend les marches.
« Mary Pat !»
dit Donna à voix basse. Mary Pat lève les yeux vers elle, en haut des marches. « Quoi ?»«
Excuse-moi, je sais pas ce que j'ai en ce moment. »
Elle invite Mary Pat à entrer.
Pourquoi je ne suis pas heureuse ? J'en ai pas la moindre idée,
dit Donna après être allée chercher une bière pour chacune d'elles.
Mais je le suis pas. Je veux dire, j'ai tout ce qu'il me faut, pas vrai ? Regarde cet endroit. Brian est un type bien. Il s'habille bien. Il prend soin de moi. Il ne m'a jamais frappée. Je peux même pas me souvenir de la dernière fois qu'il m'a crié dessus. Alors qu'est-ce qui m'empêche d'être heureuse ?
Du bras, elle montre la salle à manger. Le vaisselier, aussi grand qu'une chambre froide de boucher, le lustre au-dessus d'elle, si énorme que les ombres qu'il projette ruissellent sur les murs comme des plantes grimpantes, la table à laquelle elles sont assises, avec un plateau en marqueterie, assez grande pour 12 personnes. Elle répète
« Pourquoi je suis pas heureuse ?»«
Comment veux-tu que je le sache ?» répond Mary Pat avec un rire gêné. Donna tire une bouffée de sa cigarette.
Tu as raison. Tu as raison, tu as raison, tu as raison.
Je sais pas si j'ai tant raison que ça, dit Mary Pat. Je sais tout simplement pas pourquoi tu n'es pas heureuse.
Il me baise bien, dit Donna. Il prend soin de moi. Il m'achète tout ce que je veux.
Mary Pat jette un coup d'œil à l'horloge de parquet ancienne dans un coin de la pièce. 8h20. Presque 3h30 après l'heure limite promise par Brian Shay. Donna, dit-elle, j'arrive pas à trouver Jules. Et Brian m'a promis de se renseigner, alors il faut que je le trouve.
T'as pas envie de baiser avec lui ?
Non, j'ai pas envie de baiser avec lui.
Pourquoi pas ?
Parce que j'ai baisé avec lui quand on était au lycée et j'ai pas trouvé ça si génial que ça. Donna prend la couleur d'une pomme de terre bouillie, un blanc translucide. Ses yeux s'agrandissent comme des balles de baseball.
Tu as baisé avec mon Brian ?
Au temps du lycée.
Mon Brian ?
Il n'était pas à toi à cette époque-là.
On était amis à cette époque-là.
Ouais. Donna écrase sa cigarette sans détacher les yeux de ceux de Mary Pat.
Pourquoi tu m'en as pas parlé ?
Parce que t'en pensais pour lui.
Non, pas du tout.
Mais si.
Mais je sortais avec Mike Attardo.
C'est vrai. Mais t'en pensais pour Brian.
Je t'en ai jamais parlé.
Mais je le savais.
Alors, tu as baisé avec le gars pour qui tu savais que j'en pensais.
J'étais ivre, lui aussi.
Ah,
ouais.
Et moi, j'étais où ?
À Castle Island avec Mike Attardo. Donna pousse un cri d'excitation.
La nuit où j'ai perdu mon pucelage ?
Ouais. Donna pousse encore un cri d'excitation. Mary Pat en fait autant. Ça leur fait du bien l'espace d'un instant. Se souvenir de celles qu'elles ont été avant de devoir se retrouver de nouveau avec celles qu'elles sont devenues. Quelques petits gloussements plus tard, Donna dit
« Ah ! Merde, Mary Pat ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on en est arrivé là ?
Où ? Là ?
Là ? Où on est pratiquement des étrangères l'une pour l'autre ? On était amis.
Tu es partie.
C'est vrai.
Tu as vécu au Japon.
Burke.
En Allemagne.
Deux fois Burke.
À Hawaï, j'ai entendu dire. Donna allume une autre cigarette.
Là, c'était chouette.
Je suis désolée pour la mort de ton mari.
Je suis désolée pour le tien aussi.
Non, il m'a juste quittée. Donna secoue la tête.
Le premier. Dioki.
Oui. Mary Pat hoche la tête. C'était il y a longtemps.
Ça doit être encore douloureux.
Il me cognait pas mal.
Ah. Et le deuxième?
Jamais. C'était un type bien.
Mais il t'a quitté.
Ouais.
Pourquoi?
Cela prend tellement de temps à Mary Pat pour parler que, lorsqu'elle ouvre enfin la bouche, Donna a fini sa cigarette et la lumière dans la pièce a changé. Je lui faisais honte.
Comment ça ?
Je sais pas.
Tes cheveux ?
Ils sont pas bien, mes cheveux.
Ton visage, tes nichons, ton... quoi ?
Ma haine, dit Mary Pat avant de s'allumer une cigarette.
Je comprends pas.
Moi non plus. Mary Pat rejette un long ruban de fumée. Mais c'est ce qu'il a dit le jour où il est parti. Il a dit « Ta haine me fait honte. » Donna émet un grognement.
Ça fait type un but sa personne.
C'est ce qu'il est.
Alors qu'il aille se faire foutre. Et, comment je dirais, lui, la haine, il connaît pas. C'est un foutu saint.
Exactement.
T'as de la veine d'en être débarrassé. Non.
Je me retrouve seule. J'ai 42 ans.
Tu vas rencontrer un autre type.
Je l'aimais bien.
Un type qui sera mieux.
Mary Pat hausse les épaules.
Mais si, je te dis.
Peut-être que je pourrais rencontrer un type qui sera mieux pour moi. Mais je rencontrerai jamais un type qui sera mieux que lui. Elle reste assise en silence un moment. Mary Pat a l'impression que cette maison est trop grande et trop froide, même au beau milieu d'une vague de chaleur, pour imaginer qu'il puisse y avoir de la joie dans cet endroit. Si elle ressentait de l'envie à l'égard de Donna en entrant, elle doute qu'elle en ressentira encore en sortant.
« Pourquoi tu perds ton temps avec Brian ?»
dit Donna brusquement.
« Pourquoi tu vas pas directement à la source ?»
Marty ?
« Non.
La source. Le petit ami de Jules. »
Je suis allée voir Rum deux fois. La seconde fois, je lui ai foutu une de ses raclées. Je sais pas s'il va être très bavard à partir de maintenant.
C'est pas Rum, le petit ami de Jules.
Quoi ?
Mary Pat, voyons. T'es au courant ?
Ben, non.
Merde. Merde, merde, merde. Ah, mais que je suis conne, merde.
Donna devient d'un blanc si pâle que ses lèvres roses en paraissent écarlates. Mary Pat la surveille comme on surveille une casserole qui est sur le point de déborder. C'est qui, le petit ami de Jules, Donna ? Pendant un moment, elles écoutent la grande horloge faire tic-tac. De nouvelles ombres se déposent dans la pièce. Des feuilles mortes racle le trottoir dehors.
Elle est avec Franck.
Franck comment ?
Franck, tu te fous de ma gueule ou quoi ? Quel Franck tu crois que c'est ?
Mary Pat n'a même pas envie de dire son nom. Franck Toomey ?
Ben, ouais.
Tombstone Frankie ?
Ouais.
Frankie Toomey est marié. Et il a 4 enfants. Son attachement à sa famille est depuis longtemps considéré comme la qualité qui compense un peu le reste chez lui, en dehors de sa belle gueule et de sa belle voix de chanteur. Et c'est vrai qu'il est beau, dans le genre acteur de cinéma. Sa ressemblance avec James Garner est frappante. Plus encore qu'un physique avantageux, il a du charisme à revendre. Mais il ne l'utilise que sur les gosses du quartier. Il leur achète des bonbons et des glaces. Aux plus pauvres, il glisse quelques dollars en plus pour aider ta maman. C'est Frankie, et non pas Marty, que les petits garçons veulent être quand ils seront plus grands. Et apparemment, c'est avec Frankie et non pas Marty que les filles veulent être quand elles seront plus grandes. Il se promène non seulement comme si les rues lui appartenaient, mais comme si c'était lui qui les avait construites. Il appelle tout le monde par son nom, et il a un rire franc qui porte à plusieurs rues de distance. C'est ça, le Franck Toomey, que tous les gosses voient tandis qu'ils grandissent. Les adultes savent qu'on l'appelle Tombstone, parce qu'il a plus de cadavres dans son CV que la section locale des Hells Angels. Quand il ne tue pas pour les Irlandais, il est prêté aux Italiens. Pendant la guerre des McLaughlin, au début des années 1960, Frankie a buté tant de types qu'un jour, un certain Al Coogan, le voyant s'approcher de son salon de coiffure, s'est enfui dans la rue, au milieu de la circulation, pour lui échapper, et s'est fracturé la hanche. En fait, Frankie voulait juste se faire couper les cheveux.
« Ma fille !»
murmure Mary Pat. Donna a l'air affligée.
« Je croyais que tu le savais. Tout le monde le savait. »
C'est qui, tout le monde ?
Tu sais bien, tout le monde,
sauf moi.
Je suis désolée.
Tu l'es vraiment ?
Désolée ? Ouais. Tu sais, quand on fait partie du monde de Marty, du monde de Brian, on ne vit que dans ce monde-là. On ne passe du temps que les uns avec les autres. On ne sait que ce qu'on sait.
Mais est-ce que tu savais ? C'est que Frankie Toomey voyait ma petite Jules, une fille qui a 7 ans de moins que la moitié de son âge à lui.
Ouais.
Et ça te dérangeait pas ?
Chacune soutient le regard de l'autre et le temps s'écoule. Et les filles qu'elles ont été autrefois pourraient peut-être, mais peut-être seulement, devenir les anges posés sur l'épaule de celles qu'elles sont aujourd'hui. Mais les yeux de Donna se font distants.
Je suis la gardienne de personne, Mary Pat.
Tu es la deuxième personne à me dire ça cette semaine.
Mary Pat se lève. Tu vois, on n'arrête pas de répéter qu'ici, on défend certaines valeurs. On n'a peut-être pas grand-chose, mais on a le quartier. On a un code. On fait attention les uns aux autres. D'une chiquenaude, elle renverse sa canette de bière. Elle regarde le liquide couler sur le plateau en marqueterie de Donna Shay et ajoute « Quel tas de conneries !» Elle sort pendant que Donna court chercher des torchons.